manière générale, les mesures nationales ne fonctionnent que si elles sont coordonnées avec les voisins. Pour réussir, il faut travailler ensemble et rapidement sur une réponse coordonnée. Le défi l'exige.
La présidente de la Commission européenne. Ainsi parlait Ursula von der Leyen le 15 mars 2020. Ce qui est important, c'est la coordination. Un an plus tard, on peut faire le bilan. Et c'est l'économiste Jean Pisani-Ferry, cette semaine dans Les Échos, qui résume le mieux l'année écoulée. Percée économique, fiasco sanitaire. Les vaccins, la priorité serait dû être la rapidité, la quantité, mais non. Bruxelles a négocié sur le coût, le commerce est dans son ADN. La santé, non. Alors le résultat est terrible, des économies sur les doses qui nous coûtent cher. En revanche, depuis un an, quelle agilité, quelle réactivité sur la monnaie, le budget pour que les États ne manquent pas d'argent. Regardez ce qu'a fait la Banque centrale, regardez comment Bruxelles a jeté son bonnet par-dessus les moulins sur les aides d'État, sur les déficits. Que retiendront les Européens de cette année? Le sanitaire ou l'économique? Pour l'instant, on a des signaux limités, mais je note qu'aux Pays-Bas, le parti pro-européen gagne du terrain. Et en Italie, ce sont les populistes, la Ligue, le 5 étoiles, qui ont cessé de tirer à bout portant sur l'Union. C'est vrai que 200 milliards d'euros à dépenser, c'est leur part du fonds de relance. Ça a de quoi adoucir les cœurs les plus endurcis.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Écho dont je vous donne le programme sans tarder ce samedi 20 mars. En première partie, notre invité, c'est le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. Et puis à partir de 9h30, on parlera d'espace, on parlera de cette bataille au-dessus de nos têtes, bataille économique aussi, question de souveraineté également. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo sur les constellations de satellites, de gros enjeux, un gros marché. C'est encore l'américain Elon Musk qui fait la course en tête. Quelle riposte européenne? On en parlera avec notre second invité, le PDG d'ArianeSpace, Stéphane Israël. Et puis bien sûr, dans le Mag Écho, il y a vos questions de vie au boulot. Là, c'est Sandrine Foulon qui vous répond. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, on a eu beaucoup de questions cette semaine sur la prime Macron. Enfin, la nouvelle.
Oui, absolument. Une question de Séverine qui fait partie de ses salariés de deuxième ligne.
À tout à l'heure, juste avant 10h, pour ma vie au boulot. Voilà, c'est le Mag Écho ce samedi. Vous avez le programme. C'est parti. Et le ministre de l'économie est notre invité. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bruno Le Maire, vous ne vous êtes pas exprimé depuis l'annonce du confinement jeudi. Merci d'avoir choisi France Inter. D'ailleurs, est-ce que vous vous dites confinement ou est-ce que comme Emmanuel Macron, vous trouvez que le terme n'est pas très adapté?
Je ne crois pas que les débats linguistiques soient ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Ce qu'ils attendent, c'est que nous puissions lutter avec efficacité contre le virus. Parce qu'on voit bien que aujourd'hui beaucoup de services de réanimation sont saturés, et puis qu'on protège l'économie, qu'on protège les commerçants qui sont fermés aujourd'hui avec les nouvelles règles de restrictions sanitaires. Et je veux le dire très clairement ce matin, nous continuerons à faire le maximum pour les commerces qui sont fermés. Ils sont 90 000 commerces supplémentaires. C'est un peu moins que ce qui avait été annoncé il y a deux jours, parce que nous avons décidé avec le Premier ministre de laisser ouvert les fleuristes, de laisser ouvert les concessions automobiles pour ne pas impacter derrière les chaînes d'industrie automobile. Mais il faut une mobilisation totale à nouveau pour ces commerces qui sont très durement touchés par ces règles sanitaires.
Et qui sont pour certains très en colère. Je voudrais qu'on commence par écouter ensemble, si vous voulez bien, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel.
Depuis toujours, on nous dit les commerces ne sont pas des lieux de contamination. L'étude de Pasteur, encore sortie il y a deux jours, le dit. Et là, les seules mesures qui sont prises concernent le commerce. Puis enfin, on nous avait dit surtout, il y a une chose qu'on ne refera jamais. C'est la distinction essentielle non essentielle et la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces. On a compris, les Français trouvaient ça absurde. Donc on ne le refera jamais. Résultat, ça a été refait. Quand votre enfant à 10 ans, dans la cour d'école, déchire son pantalon, c'est naturellement essentiel de pouvoir le remplacer au plus vite. Et c'est un produit de première nécessité. Quand votre four ou votre frigo casse, c'est un produit de première nécessité. Donc ça, il s'agit pas d'élargir à tout, mais d'avoir des choses un peu intelligent.
Voilà, ça c'était Jacques Cressel, le représentant de la délégation du commerce. Bruno Le Maire, on est reparti pour un débat sur les biens essentiels. Ça va être bizarre dans les rues, on va avoir...
Non, certainement pas.
Les coiffeurs vraiment... ouverts, les esthéticiennes fermées, on va avoir les pyjamas 2 ans pour
répondre,
acheter et les pyjamas 3 ans. Non, est-ce qu'on repart en absurdie?
Absolument pas. D'abord, je le reconnais avec humilité, il n'y a pas de solution parfaite. Bien entendu, la seule solution parfaite, c'est le retour à la vie normale. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et ce retour à la vie normale ne dépendra que d'une seule chose. La vaccination du plus grand nombre possible de Français, en respectant les objectifs qui ont été fixés par le Premier ministre. C'est la seule solution de long terme, on le sait tous. Dans l'intervalle, nous prenons les solutions qui sont les plus adaptées. Je ne dis pas qu'elles sont idéales, bien entendu. Moi, vous savez, je suis ministre de l'économie. Si nous pouvions laisser tous les commerces ouverts, si l'économie pouvait tourner à plein régime, je serais le plus heureux des ministres de l'économie. Je suis là pour que l'économie tourne vite, tourne fort, crée des emplois, se transforme vers la décarbonation. Et il est évident que ces mesures ne sont jamais idéales. Simplement, nous avons voulu respecter des règles qui, je crois, sont compréhensibles par tous. On veut éviter le brassage de population. Donc on ferme les grands centres commerciaux de plus de 20 000 m² en France, de plus de 10 000 m², là où il y a des mesures de restriction sanitaire comme en Île-de-France. Je cherche à ouvrir le plus grand nombre possible de commerces, malgré tout, parce que ça participe aussi non seulement de l'activité économique, mais du moral des Français.
Mais comment pourquoi vous expliquez les exceptions?
Par exemple,
oui, pourquoi les fleuristes?
Les fleuristes, tout simplement, parce que derrière, il y a toute une filière, il y a l'horticulture, parce que les fleuristes vendent quasiment la moitié de leur stock au moment du printemps. Et donc, pour eux, ce serait extraordinairement pénalisant. Pourquoi les chocolatiers? Parce que nous avons Pâques qui arrive et qu'ils font une très grande partie de leur chiffre d'affaires dans cette période-là. Donc, nous essayons de prendre en compte la réalité de la situation de chaque commerçant. Et puis derrière, pourquoi on m'a posé aussi la question sur les concessions automobiles? Et parce que derrière, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont concernés et que nous avons essayé au dernier confinement de fermer les concessions automobiles ou de faire des clauses qui étaient un peu trop complexes, moyennant quoi ça a eu un impact sur les chaînes de production automobile, donc sur l'emploi salarié et sur les ouvriers. Nous avons voulu l'éviter cette fois-ci. Donc vous voyez, nous faisons du sur-mesure. Je n'ai pas du tout la prétention que ce soit idéal, mais ça correspond à chaque fois à une logique simple, garantir la sécurité sanitaire des Français, tout en préservant au maximum l'activité économique et les commerces.
Donc Bruno Le Maire, il y a des perdants. Je pense en particulier aux magasins de vêtements. Hein. Et eux, on peut dire que ça fait... Ils connaissaient une crise depuis 10 ans, et là, entre depuis les gilets jaunes, la grève sur les retraites, ils connaissent cela depuis 1 an. Ils vivotent, les magasins de vêtements. Alors, ils vous alertent, ils vous disent, nous, on a fait rentrer les stocks pour les collections de printemps. On va devoir payer les fournisseurs fin mars. On a aussi le problème des loyers. Ça, ce sont les petits commerçants indépendants qui vous disent, il faut toujours qu'on paye les loyers. Il y a un sentiment de colère et de détresse, est-ce que vous l'entendez chez ces magasins de vêtements, par exemple?
Bien sûr. Bien sûr que j'entends la colère, la détresse, la fatigue aussi de beaucoup de commerces. Je n'ai pas cité les restaurateurs, je rappelle qu'ils sont fermés maintenant depuis des mois, et qu'ils souffrent dans leur chair de ces contraintes sanitaires, de ne pas pouvoir reprendre leur activité. Moralement, c'est extraordinairement difficile. Donc nous avons pris 4 décisions supplémentaires pour aider les commerces qui sont les plus pénalisés par les restrictions sanitaires. D'abord, sur les stocks qui concernent directement les magasins d'habillement, j'ai demandé au ministre délégué au PME, Alain Griset, de trouver d'ici la semaine prochaine une solution pour traiter la question des stocks avec les commerces de l'habillement.
Une solution sur pour traiter, question, ça peut être quoi concrètement?
Je ne peux pas vous dire aujourd'hui concrètement, parce que c'est des sujets qui sont très compliqués, mais j'ai toute confiance dans Alain Griset, il trouvera une solution adaptée pour cette question des stocks de l'habillement. S'agissant des commerces qui ne sont fermés que le week-end, parce que dans les Alpes-Maritimes, par exemple, ils ne sont fermés que le week-end, or vous n'avez accès au fonds de solidarité que si vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires. Donc si vous êtes fermé le week-end, vous perdez 20, 25, 30% de votre chiffre d'affaires, mais pas 50%. Donc vous êtes pénalisé, vous n'avez aucune indemnisation. J'ai donc décidé que désormais, le fonds de solidarité, pour ces départements où les commerces se sont fermés le week-end, vous pourriez avoir accès au fonds de solidarité dès lors que vous perdez 20% de votre chiffre d'affaires. Ce ne sera plus 50%, mais ce sera 20% de perte de chiffre d'affaires le week-end. Vous avez accès
pour
au fonds de solidarité. Toutes les entreprises qui sont fermées le week-end dans ces départements, auront accès au fonds de solidarité dès lors qu'elles perdent 20% de leur chiffre d'affaires. Troisième sujet pour ces restaurateurs qui ont repris un restaurant au mois de septembre, au mois d'octobre, qui ont fait des investissements, qui l'ont rénové, qui se sont dit on va ouvrir en novembre ou plus tard en décembre. Allez, au pire, on va rouvrir en janvier 2021. Ils n'ont toujours pas rouvert, mais ils ont des charges fixes. Chaque mois, ils doivent payer, par exemple, leur loyer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de dispositif pour ces reprises d'activité. Désormais, nous traiterons la reprise d'activité, nous couvrirons l'intégralité des charges fixes, des entrepreneurs qui ont repris une activité au cours des mois derniers, qui n'ont pas pu faire de chiffre d'affaires, donc ils n'ont pas de chiffre d'affaires de référence, mais payent quand même chaque mois le loyer, les charges fixes. Nous indemniserons leurs charges fixes. Enfin, quatrième dispositif qui va se mettre en place à partir du 31 mars, nous mettons en place le dispositif charges fixes pour les plus grosses entreprises, celles qui ont 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
Ça, vous l'aviez annoncé.
Oui, mais je veux annoncer aussi que même pour de plus petites entreprises, qui font pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont particulièrement pénalisés. Je pense à tout le thermalisme, qui aujourd'hui souffre terriblement dans un certain nombre de territoires, en particulier des territoires ruraux, pour les parcs à thème, pour le sport indoor. Toutes ces entreprises-là, même si elles ne font pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elles auront accès à ce dispositif de charges fixes qui sera disponible sur le site du ministère le 31 mars et qui prévoira une couverture des charges fixes jusqu'à un montant de 10 millions d'euros.
Donc 4 annonces ce matin, importantes.
Oui, très importantes parce qu'elles veulent témoigner d'une chose très simple. Le « quoi qu'il en coûte » annoncé par le président de la République il y a maintenant un an, comme je m'y étais engagé, restera la réalité du soutien de l'État au commerce tant que ce sera nécessaire.
Ces annonces-là, ça va coûter combien, ces quatre nouveaux dispositifs?
On est à 1,2 milliard d'euros supplémentaires uniquement pour les 4 semaines à venir de règles sanitaires plus dures dans un certain nombre de départements, dont la moitié pour le seul fonds de solidarité. 600 millions d'euros pour le seul fonds de solidarité.
On a le sentiment que ça repousse la sortie de crise.
Je ne crois pas du tout. Et c'est le deuxième message que je voudrais faire passer ce matin. D'abord, nous continuerons à protéger. Mais nous allons aussi accélérer la relance économique. Parce que ce que je constate, et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez sur l'Europe précédemment, c'est que cette crise, elle est aussi une opportunité formidable pour l'économie française. L'économie française a montré que dès qu'on levait les règles sanitaires, elle avait une capacité de rebond exceptionnelle. Qu'est-ce que je constate? Moi, je lis tout simplement les évaluations de l'OCDE, les évaluations de l'INSEE. On attend maintenant
Mais
les évaluations
le
du Fonds monétaire international. Elles nous disent toutes que la France devrait faire une croissance entre 5 et 6% en 2021. Et je confirme notre ambition de parvenir à une croissance de 6% en 2021 en France. Parce que nous avons une capacité de rebond qui est tout à fait exceptionnelle.
Ça veut dire que vous croyez au troisième trimestre très fort.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est très clair, et c'est pour cela aussi qu'il est indispensable de faire très attention à ceux qui sont le plus touchés, il y a 2 économies en France. Il y a une économie qui est très très durement touchée par les règles sanitaires, par les contraintes sanitaires. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est les magasins de vêtements, c'est ces commerces qui sont fermés. Nous les protégeons. Nous les protégeons totalement, nous les protégeons durablement. Et puis, il y a une autre économie que je ne voudrais pas oublier, qui est en train de se réinventer, qui se digitalise. Quand on met en place un crédit d'impôt pour la digitalisation, on prévoit 280 millions d'euros. On va en dépenser 1 milliard. Pourquoi? Parce que ces PME industrielles sont en train d'investir. On est en train d'ouvrir de nouvelles chaînes de valeur sur l'hydrogène, sur le calcul quantique, sur les pièces de microélectronique dont on a bien vu qu'elles nous manquaient, sur l'espace. Vous allez parler d'espace tout à l'heure. J'étais en Italie hier. Nous avons signé un accord avec nos amis italiens sur la question des lanceurs pour réfléchir aux nouvelles générations.
On va en parler en seconde partie, oui.
Donc tout cela, ce sont des opportunités. Et je veux vraiment que malgré les difficultés du moment immédiat, on n'oublie pas de regarder ce qui est en train de se passer dans l'économie française, une accélération de la transformation vers une économie plus compétitive et décarbonée.
Bon, vous restez confiant pour 2021, Bruno
Le
Maire.
Très confiant et très volontariste.
Et j'entends le message sur le quoi qu'il en coûte, et pourtant, on voit bien qu'il y a une petite musique sur la dette qui est en train de se distiller, sur la fin du quoi qu'il en coûte. On a eu François Bayrou qui nous a fait une proposition pour cantonner la dette Covid, on a la contribution de La République En Marche, on aura bientôt la contribution de la Cour des Comptes. Cette semaine, le rapport de la commission Arthuis. Est-ce que c'est le bon timing de commencer à parler de la fin du quoi qu'il en coûte et de comment il faudra résorber la dette?
Oui, moi je pense que c'est très bien qu'il y ait le débat. Aujourd'hui, c'est le temps du débat sur la question de la dette. C'est un débat démocratique très important. Ce n'est pas, je vais être très clair aussi là-dessus, le temps des décisions. Le temps des décisions ne doit venir qu'une fois que la croissance sera de retour et que la crise sanitaire sera derrière nous.
Mais la dette,
c'est très important. Vous savez, je pense que nous avons fait preuve avec le président de la République depuis à peu près un an sur la gestion de la crise économique de beaucoup de méthodes. Et le cœur de cette méthode, c'est d'avancer étape par étape en consultant le plus largement possible. La première étape, ça a été la protection. On l'a lancé en mars 2020 avec le « quoi qu'il en coûte ». La deuxième étape que j'ai engagée dès la rentrée 2020 et qui s'accélère aujourd'hui, c'est la relance économique. La troisième étape de notre stratégie économique et financière, ce sera le rétablissement des comptes publics. Mais ne refaisons pas les erreurs que nous avons faites en 2009-2010. On a voulu rétablir les comptes publics trop vite, on s'est précipité, on est revenu très rapidement à des règles qui étaient devenues obsolètes. On a tué la croissance dans l'œuf. Je ne ferai pas cette erreur qui avait été faite précédemment. Nous rétablirons les finances publiques parce que c'est nécessaire. Nous le ferons en fonction d'une stratégie qu'il faut définir maintenant. Et c'est pour ça que les débats sont les bienvenus. Mais nous ne le ferons que lorsque la croissance sera de retour et l'épidémie derrière nous.
Donc c'est-à-dire 2022, on en parle en 2022.
Ça veut dire, on verra d'ici la fin de l'année 2021, début 2022, où nous en sommes. Et c'est formidable qu'aujourd'hui, avec François Bayrou, avec la majorité, avec l'opposition, il y ait ce débat.
Mais est-ce qu'on n'a pas changé le monde ?
Je vois que certains se disent, il ne faut pas rembourser la dette. C'est leur droit, les Français jugeront. D'autres, comme Marine Le Pen, qui nous disent, il faut rembourser la dette, c'est une loi des reins, mais en même temps, il faut dépenser 40 milliards d'euros supplémentaires en revenant à la retraite à 60
Bruno
ans.
Bruno Le Maire, la dette, elle est soutenable.
Jugeront. Nous présentons une stratégie qui est cohérente et crédible.
La dette, elle est soutenable. Est-ce qu'on a vraiment un problème de dette ? Ces dernières années, elle a doublé, et pourtant, charge d'intérêt, elle nous coûte deux fois moins cher.
La dette, Alexandra Ben Saïd, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas la dette en tant que telle qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la dépense publique qui nourrit cette dette. C'est ça la vraie difficulté. Et c'est pour ça que j'accuse Marine Le Pen d'incohérence quand elle dit qu'elle veut réduire la dette, mais qu'elle augmente les dépenses publiques, c'est totalement incohérent. Donc le vrai sujet, celui qu'il faut mettre sur la table, c'est quel montant de dépenses publiques voulons-nous ? Avec quelle efficacité ? Parce que les Français vont nous demander des comptes sur l'efficacité de la dépense publique. Ça veut dire, nous, on veut bien payer nos impôts, mais on veut en retour que nos services publics soient efficaces. Donc ce débat sur la dette cache un autre débat beaucoup plus sensible, beaucoup plus essentiel pour la démocratie française. Quel niveau de dépense publique voulons-nous ? Dans quel service public que nous jugeons essentiel ? Et aussi, avec quel niveau d'imposition ?
J'ai deux questions sur l'actualité, Bruno Le Maire. Pour vous, la première, vous n'en avez pas encore parlé, c'est Danone, le PDG Emmanuel Faber, confronté à des fonds activistes. Il a démissionné, il a été remercié. Quelle lecture vous avez fait ?
C'est un problème de gouvernance d'une entreprise privée. S'il y avait eu la moindre inquiétude sur des actifs de Danone, qui sont des actifs de l'agroalimentaire, et contrairement à ce que j'entends dire trop souvent, l'agroalimentaire, ce sont des actifs qui peuvent être tout à fait stratégiques, parce que c'est notre alimentation qui est en jeu, et donc derrière, notre culture. Dans ce cas-là, l'État serait intervenu. Mais dès lors qu'il s'agit d'un problème de gouvernance interne d'une entreprise privée,
entreprise
l'État
à mission.
N'a pas... Je souhaite que toutes les entreprises se dotent de cette mission et du sens qui doit être le leur. Mais dès lors qu'il s'agit d'un problème de gouvernance privée, c'est au conseil d'administration, c'est à la gouvernance de l'entreprise de prendre ses décisions, pas à l'État.
Autre question, on pense ce matin aux salariés d'Ascoval, aux salariés d'Ayange qui sont inquiets à nouveau. Un des financiers de leur propriétaire britannique a déposé le bilan. Ils redoutent l'effet domino. Alors le 9 mars, c'était il y a à peu près 10 jours, vous avez dit que l'État serait derrière eux. 10 jours plus tard, on en est où ?
Je me suis battu depuis le premier jour pour Ascoval. Je ne laisserai jamais tomber les ouvriers d'Ascoval. Et je voudrais vraiment qu'ils m'entendent. Je ne vous laisserai jamais tomber. J'étais là quand c'était dur. J'ai toujours été là et je continuerai à être là. Aujourd'hui, il y a un coup dur, mais il est purement financier. Ascoval se porte bien, Ascoval a des commandes. Ascoval a retrouvé un carnet de commandes avec Ayange et les rails de la SNCF. Donc c'est simplement un problème financier. Par conséquent, nous garantirons, nous, l'État français, l'activité d'Ascoval et d'Ayange avec ou sans Liberty. Et
Liberty,
je débloquerai
un prêt. C'est le
Liberty, c'est le propriétaire financier. Et je débloquerai un prêt de 20 millions d'euros qui sera disponible lundi pour Ascoval de façon à payer les salaires, à payer la fourniture nécessaire pour faire tourner l'usine et garantir qu'il n'y ait pas de rupture d'activité à Ascoval et à Ayange. Je le redis à tous les ouvriers qui nous écoutent, à tous les salariés de ce magnifique groupe qu'Ascoval Ayange, nous ne vous laisserons pas tomber. Nous sommes avec vous, derrière vous.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci Alexandra Ben Saïd.
On n'a pas encore parlé de vaccination et pourtant c'est la clé. On rejoint maintenant notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Pierre, on s'interroge ce matin sur la guerre des vaccins. Les Européens, au total, ils ont dans leur portefeuille vaccinal, comme ils l'appellent, près de 2,6 milliards de doses potentielles. Moins de 70 millions ont été livrés à ce jour. Alors la Commission, elle a mis en place un mécanisme de contrôle des exportations des doses produites en Europe. Pierre, le torchon brûle, en particulier avec le Royaume-Uni.
Alors c'est vrai que ce mécanisme, effectivement, il fait grincer des dents, même si pour l'instant la seule exportation qui a été interdite, 250 000 doses, ça a été d'Italie vers l'Australie. Et c'est toujours AstraZeneca qui est au centre de la tourmente pour son vaccin, développé avec l'université d'Oxford, c'est important. Parce que alors que le laboratoire anglo-suédois ne devrait lui avoir livré qu'un tiers des doses prévues d'ici juin, l'Union accuse le Royaume-Uni de n'avoir pas exporté ce vaccin vers le continent. Puis... alors que, en face, l'essentiel des 10 millions de doses de Pfizer-BioNTech exportées de l'UE l'ont été vers le Royaume-Uni. Du coup, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a émis une double menace mercredi, ne plus permettre d'exportation vers les pays qui n'exportent pas vers l'UE et pas non plus vers les pays qui ont un taux de vaccination supérieur à l'Europe. À ce jour, 10% des Européens ont reçu une première injection, 4,3% sont entièrement vaccinés. Et les menaces de la Commission sont d'autant plus mal reçues à Londres que le Royaume-Uni devrait voir baisser de 80% le nombre de premières injections en avril.
Pierre, il y a beaucoup de critiques sur cette stratégie de l'Union européenne. On imagine qu'elle ne reste pas sans réponse. Alors, on a bien compris que la Commission estime avoir la haute main sur les efforts de vaccination. Comment se défend-elle face aux accusations qui ne viennent pas que d'outre-Manche ?
Alors, elle manque pas une occasion de rappeler que son initiative n'est pas une limitation des exportations. Elle l'a d'ailleurs baptisé mécanisme de transparence des exportations. Dans la pratique, ça revient tout de même à un contrôle, puisque chaque État membre où un vaccin est soit produit, soit conditionné, est désormais requis de donner son autorisation à l'exportation ou de l'interdire, comme on l'a vu en Italie. Mais la Commission souligne que des lots ont été exportés vers une trentaine de pays et que le mécanisme ne concerne en outre, ni les pays des Balkans, ni ceux du voisinage oriental, c'est-à-dire l'ex-URSS, ni le mécanisme COVAX de solidarité pour les pays les moins riches.
Pierre Bénazé en direct avec nous de Bruxelles. Merci. Il est 9h34 sur France Inter. On a parlé de la France, on a parlé de l'Europe. Eh bien maintenant, on va aller voir l'économie comme elle tourne ailleurs que sur Terre, au-dessus de nos têtes. On va parler dans cette seconde partie du Mag'Éco de fusées, de satellites, de batailles économiques avec le PDG d'Arianespace qui nous a rejoint dans le studio 521. Bonjour Stéphane Israël.
Bonjour.
Arianespace, c'est notre groupe européen, pas celui qui fabrique les lanceurs, mais celui qui les commercialise. Alors vous allez nous dire, il y a trois tailles, il y a small, medium et large.
Il y a surtout deux tailles à présent. Il y a Ariane 6 qui arrivera en 2022 et aujourd'hui c'est Ariane 5, dont c'est un lanceur qui sera moyen et lourd. Et puis il y a un lanceur un peu plus léger, c'était l'actualité d'ailleurs hier avec le ministre Bruno Le Maire en Italie, c'est Vega. Voilà, donc aujourd'hui l'Europe elle est structurée autour de deux fusées, Vega et Ariane.
Et Soyouz, alors, la fusée russe?
Alors, Soyouz, c'est un très beau partenariat avec les Russes. Et effectivement, nous lançons des fusées Soyouz depuis la Guyane, mais aussi depuis la Russie. Et nous allons en lancer une la semaine prochaine.
Alors, ce qui vous occupe en ce moment, Charian Espace, c'est l'arrivée de nouvelles constellations, des petits satellites au-dessus de nos têtes. Stéphane Israël, je vous propose que nous écoutions ensemble le dossier de notre reporter Anna Elverzo. Parfois, les satellites, ça a l'air un peu lointain. Alors, on va partir du concret et on va même partir d'un cas extrême. On se souvient tous de ce qui s'est passé début octobre, la tempête Alex, dans la vallée de la Roya.
Les habitants de Breil montent chercher de l'eau potable aux sources naturelles, prendre du réseau téléphonique pour prévenir leurs proches. Sur une route tout abîmée, des coulées de boue, des pierres au milieu desquelles on zigzague.
Le village, il est anéanti là.
Pour l'instant, on fait état de 8 disparus. C'était le dernier bilan des pompiers dans cette vallée de la Roya. Mais le chef des pompiers sur place me disait être très pessimiste. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent.
David Lisnard, vous êtes le maire Les Républicains de Cannes.
Oui.
Dans la tribune que vous avez écrite dans Les Échos, vous rappelez que le 2 octobre dernier, une bombe météorologique a dévasté trois vallées emblématiques des Alpes-Maritimes, la Tinée, la Vésubie et la Roya.
Il y a eu des morts, il y a eu plein de morts. Il y a des villages qui ne sont toujours pas accessibles aujourd'hui.
Et là, vous expliquez que les moyens de communication ont été coupés et que, du coup, les satellites auraient eu une utilité.
Un rôle déterminant parce que le fait de ne pas avoir de couverture satellite a fait que les habitants ont été isolés. Donc, les familles qui étaient sur le littoral n'avaient pas de nouvelles des habitants. C'est qu'il y a, d'abord, au-delà de l'angoisse individuelle, a des répercussions sur l'organisation des services parce que, du coup, le nombre de disparus devient très important. Et la recherche des disparus, l'organisation humaine des services est pénalisée par ce manque d'information. Donc, s'il y avait eu une couverture satellitaire en très haut débit de ces zones-là, les services auraient été mieux coordonnés. Et enfin, dans les longues semaines qui ont suivi le fait qu'il y avait une rupture totale des moyens de communication, les habitants auraient pu mieux vivre cette période très douloureuse. Une grande partie du territoire français est encore en zone blanche. Aujourd'hui, on a 35 000 communes en France, vous n'avez que 12 000 communes qui ont la fibre. Dans les grands enjeux de l'époque, la réponse satellitaire, elle est très pertinente, surtout pour les zones rurales, c'est-à-dire que c'est de l'aménagement du territoire, surtout pour les zones de montagne. Le satellite peut apporter un bien considérable au meilleur coût, au meilleur prix, pour apporter le très haut débit, donc pour apporter des moyens de communication, et moyens de communication, la communication, c'est l'indépendance, la souveraineté et la qualité de vie.
Des satellites, depuis une dizaine d'années, on en envoie en orbite environ 200 par an. Mais aujourd'hui, la cadence est en train de s'accélérer. Et 2020, ça a même été la grande année du business des satellites, avec un millier de ces dispositifs, de ces satellites de plus qui ont été lancés. Par exemple par Ariane ou bien par la fusée de SpaceX, vous savez, la compagnie de l'Américain Elon Musk. Tout l'enjeu, c'est bien de savoir qui les fabrique et qui les propulse. Mais d'abord, voyons bien à quel point aujourd'hui ces satellites font partie de notre quotidien. Anna Elverzo a rendu visite à CLS. C'est une entreprise toulousaine qui propose des guillemets solutions spatiales. Des solutions à quel problème? Que font ces satellites? Écoutez, vous ne vous en doutiez peut-être pas.
Allô. Enchantée, Anna Elverzo.
On se trouve devant votre écran d'ordinateur. C'est votre lieu de travail ici. Hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Donc, Conrad Roland, de la société CLS. Il y a des milliers de satellites dans l'espace. Donc, c'est des satellites, il faut imaginer comme si c'était un gros appareil photo qui est dans l'espace et qui acquiert des images de manière très régulière. Après, il y a des satellites qui prennent la hauteur, donc la hauteur de l'eau. À CLS, on les utilise pour suivre l'état des océans. On a des satellites de positionnement, notamment pour le suivi des pêches, pour le suivi de la sécurité maritime.
Le suivi des pêches, c'est-à-dire, en quoi est-ce qu'un satellite a à voir avec la pêche?
Alors, on va avoir des balises qui vont être mises sur des bateaux pour avoir des droits de pêche, de pouvoir aller pêcher dans certains endroits et pas dans d'autres, et donc de pouvoir limiter la pêche illégale.
Ça vous permet de tracer les pêcheurs ou...
Oui, et ça peut aussi envoyer des informations sur la pêche, les espèces qu'ils ont pêchées.
On sait par le satellite combien de poissons et quel type de poisson a été pêché?
Oui, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme usage? Les agriculteurs aussi?
Ça permet de voir la cohérence entre ce qu'a déclaré un agriculteur, ce qu'il a déclaré pour avoir des subsides au niveau de la PAC, et ce qu'il a vraiment exploité.
Mais c'est ça.
Là, c'est du contrôle.
Mais
on travaille aussi la CLS pour des compagnies agricoles sur le suivi de leur culture. Donc, c'est-à-dire de pouvoir suivre dans le temps l'état de la culture, quand est-ce qu'elle est bonne à récolter, s'il y a une attaque de parasites, s'il faut traiter ou pas, etc. Mais on peut avoir aussi des satellites bientôt Kineis, qui est une constellation, des délocalisations plus précises avec plus d'informations.
Bon, ce que vous appelez une constellation, c'est plusieurs satellites.
C'est ça, voilà.
Combien de satellites?
On prévoit d'en lancer à peu près 25. Ce sont des petits satellites puisqu'ils font de la taille à peu près d'une boîte à chaussures. Et donc là, on pourra suivre jusqu'à plus de 2 millions de personnes ou d'objets quotidiennement dans le monde.
Plus de 2 millions d'objets connectés.
C'est ça, exactement.
En fait, ces constellations de satellites ont pour but de couvrir toutes les zones blanches. 4 grosses constellations de satellites sont aujourd'hui en concurrence. La plus importante, c'est Starlink, du milliardaire américain Elon Musk, qui a déjà envoyé 1200 satellites en orbite. Puis, il y a celle d'Amazon, l'anglaise OneWeb et la canadienne Telesat. Au total, ces 4 constellations représentent 6000 satellites sur les 12500 qui seraient lancés dans les 10 ans qui viennent. Alors, quelle place ont les entreprises françaises dans ce marché? Pour le savoir, je vais voir Jean-Pierre Diris, directeur au Centre national d'études spatiales.
C'est un nombre effarant de satellites dans l'espace. C'est rendu possible par la baisse des coûts de lancement et la capacité qu'a l'industrie de fabriquer des satellites en série à des prix relativement raisonnables, qui sont entre 1 et 10 millions de dollars pièce pour plusieurs centaines ou milliers de satellites.
Du coup, en France, on a beaucoup de start-up et d'entreprises qui se sont placées sur ce marché.
Alors oui, il y a pas mal de start-up, mais c'est un écosystème complet qu'on a en France. En fait, on sait faire des satellites made in France, à haute valeur ajoutée. Si on prend l'ensemble de l'activité satellite, c'est 10 000 emplois et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Si l'on parle des grands groupes, on les connaît, c'est Airbus et Thales, les équipementiers sont assez nombreux, et des start-up, effectivement, se lancent aussi dans ce business.
Mais d'un autre côté, quand on regarde Elon Musk qui envoie le plus de satellites, il en envoie 60 par mois dans l'espace. Lui, il n'a pas besoin de ces services-là, de toutes ces entreprises, puisqu'il envoie ses satellites par son propre matériel. Hein.
Oui, cette société SpaceX fabrique tout en interne, les satellites, les lanceurs qui sont réutilisables, etc. C'est un modèle extrêmement intégré, qui est très compétitif, mais qui n'est pas ouvert à la compétition internationale. Donc la grosse différence, c'est qu'en Europe, notamment, on n'a pas ces investisseurs privés. On a plutôt l'intention de se reposer sur l'Union européenne, la Commission européenne, pour investir dans ce sujet des constellations, pour essayer de pousser à l'excellence notre industrie européenne dans le domaine.
Donc, les entreprises françaises sont très actives sur ce marché et l'Union européenne projette de construire sa propre constellation de satellites. Mais pour la conseillère financière d'Euroconsult, Rachel Villain, pas sûr que ce soit suffisant pour faire face aux milliardaires de l'espace américain.
Oui, bonjour, c'est Anaëlle.
Oui, allez-y, 5e étage.
Merci.
Rachel Villain, est-ce que vous pourriez nous dire pour quelles raisons est-ce qu'en Europe, on n'en est pas au même stade qu'aux États-Unis sur l'investissement privé? Pour quelle raison est-ce que c'est l'Union européenne qui s'en charge, donc les États, et qu'il n'y a pas d'investisseurs privés, finalement, pour ces projets de constellation de satellites?
Il y a deux raisons principales. Premièrement, on n'a pas de milliardaires du spatial en Europe, donc l'équivalent de Elon Musk et de Jeff Bezos. Et deuxièmement, la prise de risque sur les capitaux privés en Europe, elle est plus importante qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a des systèmes de défiscalisation, et il y a surtout le fait que quand on est en statut de banqueroute, les apporteurs en capitaux perdent tout leur capital et les prêteurs bancaires de la dette bancaire effacent la dette. Et on continue l'exploitation de l'activité, mais on a effacé toute la dette nécessaire pour financer l'infrastructure. Donc ça fait une grande différence dans la prise de risque des investisseurs de départ.
Donc on va nous proposer des abonnements pour avoir Internet partout sur la planète. Et ici, d'après vous, est-ce que ça va être Elon Musk? Est-ce que ça va être Jeff Bezos? Est-ce que ça va être les services de l'Union européenne? De qui va-t-on dépendre?
Mais en fait, le projet européen, il a pour finalité quand même de servir en premier les besoins européens, mais aussi à faire du co-développement en Afrique, de proposer des solutions en Afrique, donc dans les zones qui sont très mal desservies.
Mais ça, Elon Musk et Jeff Bezos vont avoir la même idée, non?
Oui, ils, sauf que là, on est d'État à État, donc c'est plus facile peut-être de gérer cette coopération interétatique. Jeff Bezos et surtout Elon Musk, actuellement, ils sont dans une logique purement commerciale, donc on ne vise pas tout à fait les mêmes marchés, puisque la Starlink vise des marchés commerciaux, grand public, d'entreprises, alors que cette constellation européenne aura quand même comme finalité à la fois les gouvernements européens eux-mêmes en tant qu'utilisateurs de cette capacité pour les endroits où d'autres solutions font défaut et aussi les marchés grand public s'il en reste, qui ne seraient pas servis par des solutions existantes satellitaires.
Et qui a donné l'autorisation à Elon Musk d'être en service ici, en Europe?
C'est l'agence de réglementation des télécommunications française. C'est aussi la libre concurrence, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un service, il permet d'apporter une solution à des gens où il n'y a pas de service, ou alors il y a un service à des prix trop élevés.
Mais alors, il y a quand même une question, c'est qui décide d'autoriser ces États ou ces privés à avoir autant de constellations, autant de satellites dans l'espace?
Le point de départ de tout projet de constellation, c'est le droit à l'utilisation du spectre électromagnétique. Donc en fait, ce sont les États qui sont souverains dans ces attributions de droits au spectre. Et donc, les projets privés font une demande à leur gouvernement.
Donc, c'est-à-dire que si les États-Unis décident, je dis un chiffre au hasard, mais 100 000 satellites privés américains, c'est possible si l'État américain dit OK, on y
tout
va.
Tout à fait.
Et nous, on n'aura rien à dire.
Oui, c'est tout à fait ça.
Le business du New Space. Qui gagnera cette bataille? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et cette bataille spatiale économique, le PDG d'Arianespace est toujours avec nous pour la décrypter. Stéphane Israël, vous avez entendu le reportage avec moi. Les constellations de satellites, c'est une révolution, on n'a encore rien vu?
Oui, c'est une véritable révolution puisque, en fait, les satellites vont de plus en plus servir à connecter l'ensemble des terriens et ils vont servir à cela depuis l'orbite basse, l'orbite qui est dans la proximité immédiate de la Terre, 500 000 km, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km. Dans le reportage que vous avez passé, il y a deux ou trois choses très importantes. Le maire de Cannes a parlé de résilience. Ces grandes constellations vont nous donner de la résilience par rapport au réseau terrestre. Et ensuite, on a vu à quel point les satellites vont nous aider à faire trois choses. Le développement, c'est ce qu'a dit Rachel Villain, et c'est très important, on peut avoir un partenariat entre l'Europe et l'Afrique. La connectivité, je viens d'en parler pour connecter le maximum de terriens. Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut en parler, si l'Europe veut se doter d'un cloud souverain, on aura aussi besoin de ces constellations. Donc c'est une révolution, elle est vraiment en marche.
Et dans la révolution en marche, j'ai bien noté que les zones blanches appartiendront peut-être bientôt au passé, mais la première offre d'abonnement à cet Internet qui viendra de l'espace, via les satellites pour les Français intéressés, est-ce que ça sera celle de SpaceX, la société de l'Américain Elon Musk?
Alors, vous avez déjà la possibilité de vous connecter par des satellites. Il y a par exemple un opérateur français qui s'appelle Eutelsat et nous avons lancé des satellites de connectivité pour Eutelsat et nous allons continuer de le faire. C'est la génération Connect.
Mais là, Musk arrive, quoi.
Alors, Musk arrive et effectivement, la bataille est engagée, vous l'avez dit. Et il y a un chiffre que j'aimerais citer parce qu'il est très impressionnant et il va donner l'ampleur de la réaction que nous devons apporter. Si Alexandra Ben Saïd, vous levez un peu votre tête, vous allez apercevoir au-dessus de vos têtes 1325 satellites. 1325 satellites qui appartiennent à un homme qui s'appelle Elon Musk. Et donc cet homme, aujourd'hui, a 44% des satellites en opération au-dessus de vos têtes. Et donc la question, c'est celle, est-ce que l'orbite basse sera monopolisée et privatisée par SpaceX ou est-ce que nous allons avoir un usage libre et diversifié de l'orbite basse? C'est la question du moment.
Mais alors justement, Amazon aussi, ça c'est Jeff Bezos, a prévu un investissement de 10 milliards d'euros pour son projet Kuiper, et ça c'est plus de 3000 satellites encore. Vous la posez vous-même cette question, est-ce qu'elle est en train d'être privatisée par les milliardaires américains parce que, contrairement aux États, eux ils ont les moyens?
Alors je fais un peu une différence entre les projets d'Elon Musk qui sont des projets de verticalisation totale et le projet de Jeff Bezos qui me paraît
verticalisation.
Davantage verticalisation, c'est-à-dire que la même entreprise, le même homme, construit, lance et opère les satellites. Donc l'ensemble de la chaîne de valeur est concentré dans les mains d'un même acteur. Pour Jeff Bezos, nous verrons, il aura peut-être recours à différentes fusées, nous verrons bien, ce sera son choix et son projet est tout de même plus à l'échelle humaine. On parle de 3300 satellites et pas de 42 000 satellites. Et d'ailleurs, Jeff Bezos a fait remarquer à Elon Musk qu'il comptait bien avoir ses droits en orbite. Nous lançons la constellation OneWeb et nous allons donc
jeudi
faire ce lancement.
Vous, Arianespace.
Voilà, dans la nuit de mercredi à jeudi et c'est Arianespace qui va déployer la seule constellation ouverte sur le marché commercial, la grande constellation ouverte sur le marché commercial. Nous l'avons gagnée en 2015 et nous allons la lancer depuis la Russie avec un lanceur Soyuz, mais c'est Arianespace qui le fait. Et puis, il y a les projets de l'Union Européenne, on pourra en parler.
Où en est-on? Parlons-en. Où est-ce qu'on en est? Ça a été, alors c'est depuis juillet 2020 qu'on le sait, depuis
ouais, absolument. Donc, il y a de plus en plus la volonté en Europe d'avoir une grande constellation européenne. Thierry Breton était extrêmement fer de lance dans ce projet. Nous militons depuis maintenant quelques années pour dire l'Europe spatiale, il y a déjà deux grands projets. Galileo, c'est la navigation par satellite. Copernicus, c'est la maîtrise du changement climatique et le développement durable par satellite. Et nous aimerions avoir un troisième projet emblématique, ça peut être cette constellation. Cette constellation, ça peut être un partenariat public-privé avec des acteurs privés qui s'engagent parce qu'il peut y avoir des horizons commerciaux d'exploitation. Mais ce sera fondamentalement des besoins souverains, la résilience, la connectivité, des communications sécurisées.
Mais ne pas dépendre des milliardaires américains, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Voilà. Voilà, alors, en tous les cas, ne pas avoir uniquement un face-à-face avec Monsieur Musk. Et cette constellation, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 9 acteurs qui se sont regroupés pour déposer un projet à Monsieur Breton. Ces 9 acteurs, ce sont des constructeurs de satellites, ce sont des opérateurs de satellites. Il y a même Orange, qui est un opérateur de communication terrestre. Et il y a Arianespace. Et est-ce que nous avons, à travers ce consortium, l'ébauche d'une alliance européenne? C'est un projet qui serait très emblématique.
Mais vous travaillez sur un projet qui doit déboucher quand? Quand est-ce que vous allez remettre ce projet à Monsieur Breton? Parce que alors, Elon Musk, vous venez de le dire, lui, pendant ce temps, il en lance des constellations.
Dès le mois d'avril, nous allons remettre une première ébauche de ce projet. Et effectivement, vous insistez sur un point, il faut accélérer. La clé dans l'avenir de nos métiers, ça va être effectivement l'innovation et la capacité de tous les acteurs européens public et privé, car nous sommes fondamentalement un partenariat public-privé, d'aller plus vite. Il faut effectivement que la constellation de Thierry Breton, donc on va appeler ça la constellation Breton en hommage à celui qui en est son promoteur, elle aille beaucoup plus vite que Galiléo. Galiléo, c'est un projet magnifique, mais c'est vrai qu'il a mis beaucoup de temps et maintenant, ça y est, c'est vraiment parti et ça fonctionne très bien. Eh bien, notre défi, c'est d'aller
combien
pour cette constellation beaucoup plus vite.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire des lancements avant la fin du cadre budgétaire que nous sommes en train de voter, enfin les Européens le votent. Ce cadre budgétaire européen, c'est 2021-2027, des lancements avant la fin de ce cadre budgétaire, donc avant 2027.
Stéphane Israël, pour vous qui opérez, je vais dire le service, en gros vous, le service c'est j'ai ma fusée et je mets le satellite en orbite. Le sujet, c'est la compétitivité. En combien de temps? En moins de 20 ans, SpaceX, avec sa fusée réutilisable, est devenu leader mondial des lancements commerciaux. Quel est le modèle pour rester compétitif? Vous parliez tout à l'heure de votre fusée Ariane 6 qui va arriver, mais elle a été conçue avant que SpaceX prenne toute cette place. Est-ce que le modèle économique, votre modèle économique n'est pas obsolète?
Il y a deux priorités absolues. La première priorité, c'est de consolider les conditions de l'exploitation d'Ariane 6 et de sa petite sœur Vega C. Parce que SpaceX, on pourrait en parler longuement, mais SpaceX, c'est 13 milliards déjà reçus par l'État américain depuis en réalité une dizaine d'années. Donc, il y a besoin que le secteur public et le secteur privé se mettent ensemble pour consolider l'exploitation d'Ariane 6. Ariane 6, on en a besoin pour les satellites souverains de l'Europe. C'est une question de souveraineté.
Les satellites souverains, il faut dire ce que c'est.
Ben, c'est Galiléo, c'est des satellites d'observation, c'est des satellites à des fins plus militaires. Donc c'est Ariane 6 est au service de la souveraineté de l'Europe. Et Ariane 6 va aussi pouvoir déployer ses constellations parce que c'est une très grosse fusée dans laquelle on peut mettre beaucoup de satellites. Elle a un moteur réallumable. Elle va pouvoir faire des missions extrêmement complexes pour les constellations. Et donc, il faut que les Européens se mettent ensemble pour aider Ariane 6 à être la plus compétitive possible sur le marché.
Ça veut dire lancer moins cher.
Exactement, comme le font les Américains. Monsieur Musk a reçu l'été dernier un contrat de 2,5 milliards de la NASA, 180 millions de l'US Air Force, 180 millions par lancement. C'est parfois 3 à 4 fois plus que les prix sur le marché. Donc, nous avons besoin de construire ensemble cette compétitivité et nous avons besoin de préparer la suite, la génération qui viendra après Ariane 6 et Vega. On parle plutôt de la décennie 2030 et il y a 3 pays qui vont jouer un rôle clé. La France, l'Allemagne et l'Italie. 2 institutions, l'ESA et la Commission européenne. Et si l'ensemble de ces acteurs avec l'industrie se mettent ensemble, en fédérant, nous serons plus compétitifs et plus innovants.
Ça fait un certain temps que vous lancez ce message, Stéphane Israël,
oui,
pour dire il faut faire des lancements, vous êtes européen, lancer avec la fusée européenne.
Ce message progresse, il y a une vraie volonté autour d'Ariane 6 et de Vega, je crois que les choses sont bien comprises, et il y a aussi une grande détermination des acteurs politiques pour maintenant nous aider à avancer et nous donner les moyens de nous déployer pour effectivement que l'industrie européenne puisse être plus compétitive et plus agile, mais cela, c'est dans l'ensemble d'un écosystème, et Ariane 6 est une première étape décisive que nous allons bientôt franchir.
Dans un mois, le 22 avril, on va avoir notre astronaute français, notre Thomas Pesquet, qui va s'envoler pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une capsule de SpaceX. Stéphane Israël, vous vous dites quoi quand vous
voyez ça? D'abord, je suis très heureux pour Thomas Pesquet. Thomas va être le premier commandant français de la Station Spatiale. Et donc d'abord, je souhaite un très beau vol et un très bon vol à Thomas. Et ensuite, effectivement, un peu de tristesse parce que mon rêve, ça serait que Thomas Pesquet puisse s'envoler. Ça sera sa 3e mission depuis la Guyane. C'est tout à fait possible avant la fin de la décennie, si on le veut. Et je pense effectivement que le vol de Thomas Pesquet va profondément nous interroger. Et la question qui va se poser avec la constellation, c'est à quand le vol habité pour les Européens? Et j'espère que ce ne sera pas toujours qu'un rêve et que cela pourra devenir une réalité.
Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci Alexandra Ben Saïd.
9h56, on approche de la fin de cette émission. Merci à vous donc, merci à la réalisatrice Juliette Gou, à l'attaché de production Valentin Pérez, à la technique, merci à Serge Viguier. On va baisser le rideau, mais avant, bien sûr, on a Sandrine Foulon qui répond à vos questions de vieux boulot. Sandrine Foulon, on a Séverine qui vous a écrit, elle travaille dans un petit supermarché. Alors Séverine, elle réclame une augmentation depuis 4 ans, mais elle pense que cette année, ce sera plutôt une prime Macron. Y a-t-il un risque, vous demande-t-elle, qu'avec toutes ces primes exceptionnelles, ce soit la fin des hausses de salaire ?
Alors oui Séverine, entre une prime détaxée et une augmentation de salaire taxée, le dilemme pourrait vite être tranché pour les employeurs. Les 1000 euros de la nouvelle prime Macron destinée aux salariés de deuxième ligne sont défiscalisés et exonérés de cotisations salariales et patronales. Ça peut être tentant pour des entreprises, a fortiori pour celles qui versent de toute façon ce type de gratification. Elles pourront le faire à moindre frais. L'inconvénient, vous avez raison Séverine, c'est qu'il ne s'agit pas d'une augmentation pérenne et que ce type de prime ne vous permet pas d'ouvrir des droits sociaux supplémentaires pour la retraite par exemple. À côté de ça, ce bonus pourrait bénéficier jusqu'à la fin de l'année à près de 5 millions de salariés qui se sont frottés au virus, les caissières, les ouvriers du bâtiment, les agents de propreté ou de sécurité. La prime pourrait même atteindre 2000 euros dès lors que les branches et les entreprises entameront des négociations pour revaloriser les salaires de ces métiers qui méritent une meilleure reconnaissance. Le gouvernement a même vu plus large, tous les autres salariés, les troisièmes, les quatrièmes lignes, pourront également percevoir ce montant dans les entreprises qui auront mis en place un accord d'intéressement. Mais évidemment, contrairement à la prime des soignants, versée à tous, celle des deuxièmes lignes sera accordée au bon vouloir des employeurs et selon leurs moyens.
Alors justement, Sandrine, vous parlez des employeurs, mais est-ce que cette nouvelle prime qui est détaxée aura un impact sur les finances publiques ?
Oui, fatalement, d'autant que ça fait des années que les entreprises bénéficient d'allègements de cotisations. En 2017, l'OFCE chiffrait le montant global de ces exonérations à 52 milliards d'euros. Et ça, c'était avant la prime Macron, en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Plus de 6 millions de personnes ont touché 460 euros en moyenne. Avant les primes Macron de première et deuxième ligne, et surtout avant le plan massif d'activité partielle pour soutenir l'économie, CSG et CRDS mis à part, les milliards d'indemnités versées au titre du chômage partiel sont eux aussi exonérés de cotisations salariales et patronales, tout en ouvrant pour le coup des droits sociaux supplémentaires. À force d'alléger la facture sur les primes, les heures sup, les bas salaires, chacun se demande qui finira bien par renflouer les caisses. Un bon tiers de chômeurs dont les allocations vont baisser cet été ont déjà l'impression d'en faire les frais.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.